Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, un rendez-vous encore un peu nouveau, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes et le documentaire devient feuilleton. Cette semaine, rediffusion d'une formidable série de Sur les docks de 2009, La mondialisation en 57 facettes, un grand voyage dans la petite famille du diamant par Benjamin Bibas, Emmanuel Chicon, réalisé par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a une fascination pour ces pierres tirées de la terre, des cailloux qui peuvent rendre fous, et aussi une envie de regarder au-delà des reflets trompeurs. Parce que le diamant, c'est un fantasme, mais surtout, c'est un travail infernal pour ceux qui creusent et un commerce qui rapporte pour ceux qui vendent. Accessoirement, c'est un voyage qui raconte nos histoires coloniales, commerciales, sociales et économiques, l'histoire de rapports de force qui basculent du Congo à Bombay en passant par Anvers et Dubaï. Pour commencer, les personnages. Des diamantaires avec l'accent belge, des commerçants avisés, des artisans tailleurs, la loupe vissée à l'œil et la lampe allumée, un fils qui se souvient des leçons de son père, des financiers et des indiens anversois. Ensuite, le décor. Le quartier du diamant, d'Anvers, des tramways, des beffrois qui sonnent, une architecture de briques, des tailleries, des portes opaques, des verrouillages automatiques, des sas, des interphones, un musée du diamant sous les auspices du lion et du tigre, et des silences feutrés. On est en Belgique, à Anvers, dans 3 ou 4 rues qui forment le mystérieux quadrilatère du diamant.
La mondialisation en 57 facettes, un grand voyage dans la petite famille du diamant.
Deuxième volet, Anvers, Belgique. La part du tigre.
Benjamin Bibas, Emmanuel Chicon, Jean-Philippe Navarre.
Hoe de diamant onderzoeken, hè?
Ja.
Dat is de vraag.
Ja.
Gaat er iemand vertalen?
Donc tout d'abord, on va nettoyer le diamant.
Bon, Anvers est le centre diamantaire du monde. Qu'est-ce que ça représente, Anvers? 80% du commerce en diamant brut.
Donc ensuite, il va le placer sous le microscope pour pouvoir voir les inclusions, les impuretés qu'il y a dans la pierre. Et après, il va l'observer avec la loupe.
Les pays les plus importants pour le moment au point de vue production, c'est le Botswana, 3 milliards 450 millions de dollars. La Russie a 18% du marché, l'Afrique du Sud ensemble avec le Canada 11%, et puis alors il y a l'Angola. Et vous voyez quand même que la République démocratique du Congo est encore à 7%, suivie de la Namibie. Donc la marchandise rentre à Anvers, elle est triée, elle est évaluée et puis à ce moment-là réexportée vers les centres de taille. Et à ce moment-là, quand ils sont taillés, environ la moitié de la production mondiale en diamant taillé revient sur Anvers.
Et chaque facette du diamant est donc notée et chaque inclusion, chaque type d'impureté correspond à un symbole que vous voyez là sur l'écran. Tout ceci va être centralisé dans le système parce que chaque diamant est différent et donc c'est en fait une sorte de carte d'identité du diamant.
Il y a plus que 1800 diamantaires enregistrés à Anvers. C'est-à-dire que les commerçants les plus importants, les plus intéressants se trouvent à Anvers.
Et à partir d'Anvers, la marchandise est redistribuée vers les pays consommateurs de diamants pour la bijouterie.
Et donc en 2007, nous avons eu des importations et des exportations de diamants, de toutes sortes de diamants, pour un chiffre de 42 milliards de dollars. Les prix des diamants bruts, mais aussi le prix des diamants taillés, a augmenté énormément durant les années passées. Ça veut dire une augmentation de plus que 10%, 15% par année. Et le nombre de carats, donc le poids des diamants, a diminué un petit peu.
L'épopée des matières premières. Aujourd'hui, le diamant.
Jean Isserlis, au micro de France Culture, 1980.
Le diamant est enfoui dans le sol. Il y a deux grandes sortes de gisements principaux. Vous avez ce que nous appelons, nous, les gisements primaires, c'est-à-dire le diamant est encore prisonnier de la lave des volcans, de la kimberlite, de la région de Kimberley. On l'a découverte pour la première fois. Et les gisements primaires, eh bien, c'est l'exploitation dans les pipes des volcans, l'extraction de maximum de kimberlite pour concasser, trier, pour trouver le diamant. Les deuxièmes sortes de gisements sont les gisements alluvionnaires. Les gisements primaires ont été érodés par les ruissellements et les diamants ont voyagé, par exemple en Afrique, ont voyagé sur des milliers de kilomètres et se sont groupés dans des endroits bien particuliers qui sont les courbes des anciens fleuves. Mais il faut, sous des fois des mètres et des mètres de sable ou de gravier ou de galets, trouver la roche en place et où le diamant repose.
Depuis la gare d'Anvers, 2 minutes à pied suffisent pour rejoindre le quartier du Diamant. Rufstraat, Ovenierstraat et Schubstraat sont 3 rues sécurisées qui se suivent en S et ne sont accessibles qu'aux piétons, à la police et aux fourgons de la Brinks. Leur façade, grise et opaque, dissimule une matière éminemment brillante.
Donc, revenons à vous aussi, Edith Lisdrager. Vous êtes historien du Diamant, vous êtes juge à la chambre d'arbitrage des diamantaires anversois, membre du club du diamant, vous êtes ancien président, je crois, du Haut Conseil du diamant. Vous êtes plein de choses, en fait, dans ce monde du diamant.
Non. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quelques mois, j'étais président pendant 25 ans de la Guilde du diamant et des pierres précieuses. Et j'ai aussi été administrateur au Conseil supérieur du diamant pendant 20 années. Alors bon, il était temps quand même que quelqu'un d'autre prenne ma place.
Juste, on va peut-être revenir au grand monde qu'il y a dans votre salle de réunion.
Fin du 19e siècle, lorsqu'on a découvert les mines en Afrique du Sud, à ce moment-là, il y a eu le grand rush sur les mines de Kimberley en Afrique du Sud. Et à ce moment-là, on a eu une importation très très importante ici à Anvers de diamants bruts. Jusqu'à un certain moment, Cécile Rhodes, celui-là qui a créé la Rhodésie, a créé la De Beers. Et la De Beers a racheté toutes les mines d'Afrique du Sud et avait des contrats avec tous les pays producteurs. Et nous pouvons dire que c'était un cartel qui a été l'un des plus grands succès du XXe siècle. Grâce à ce cartel, pendant 100 années, le diamant a été une valeur sûre et qui augmentait régulièrement. Lorsqu'il y avait une période de récession, ils gardaient leurs diamants bruts, ils stockaient, il fallait naturellement avoir des capitaux énormes. Et lorsque la période était très chaude, qu'il y avait une grande demande pour que les prix ne flambent pas, ils jetaient beaucoup de marchandises sur le marché. Et à ce moment-là, les prix étaient toujours plus ou moins stabilisés. Naturellement, avec le changement de régime en Afrique du Sud, la De Beers s'est mise en bourse et naturellement les actionnaires ont demandé une autre politique. Ils ont dit bon, il faut plus jouer le régulateur, nous voulons avoir des bénéfices. Donc ils ont terminé cette politique et d'autre part, il y a de nouveaux acteurs. Ce que je peux dire, donc la De Beers, elle a 46% du marché. Alrosa, donc les Russes, ils ont 18%, Rio Tinto à 8%, Leviev à 8% et BHP Billiton à 2%. Renault, donc la DTC, la Diamond Trading Company, filiale de la De Beers, qui vend régulièrement à des sideholders, donc des gens qui sont agréés d'acheter directement à la De Beers. Il y en a environ 100 de par le monde. C'est donc l'élite du secteur diamantaire.
C'est un club très sélectif?
Oui, très sélectif. Il faut démontrer que vous avez des capitaux, que vous avez des tailleries, etc., etc. Je crois que les 3/4 de ces sideholders ont leur bureau à Anvers, ou même le siège à Anvers.
Ce sont des compagnies belges pour l'essentiel ou...
Nous avons des compagnies belges, mais nous avons aussi des compagnies hindoues. Ils sont aussi devenus très, très puissants les dernières années.
Par exemple
Rosie Blue, qui est le plus grand pour le moment.
Dilip Mehta, vous êtes président de Rosie Blue. Votre siège principal est à Anvers. Vous, en tant que pionnier du diamant indien on aimerait bien connaître un petit peu la façon dont vos affaires se sont développées ici en Belgique.
La compagnie a été fondée en Inde en 1960 par mon frère Arun et mon oncle Bani Chandra. Nous nous sommes implantés à Anvers en 1973 parce que ça me semblait logique pour le développement de nos affaires, en tout cas pour leur développement international. Quand je suis arrivé dans cette ville, il y avait à peine 10 entreprises indiennes qui travaillaient dans le diamant en Belgique. À l'époque, ce secteur était contrôlé par d'autres communautés, surtout les Juifs, les Libanais et les Arméniens.
Paris Inter, 1963.
Monsieur Verstembert, vous êtes le diamantaire le plus important d'Anvers et votre famille est une famille de diamantaires depuis des générations. Alors, combien de diamantaires y a-t-il à Anvers ?
Il y a 3 000 et 14 000 ouvriers.
Comment êtes-vous devenu un gros diamantaire ?
En travaillant.
Est-ce que vous avez commencé avec beaucoup de capitaux ?
Non, très peu.
Quels sont les rapports entre diamantaires ?
Vraiment très bien. On s'arrange, il n'y a pas de différence chez nous, des nationalités, religions. On est comme une grande famille.
Donc Philippe Lasse, vous êtes porte-parole du AWDC.
Le Interpol Diamond Center AWDC, nous sommes la fédération qui défend les intérêts du secteur diamantaire anversois.
Vous nous avez dit qu'il y a plus de 1800 diamantaires à Anvers. Qu'appelle-t-on exactement un diamantaire ou quelles sont les différentes sortes de diamantaires ?
Pour nous, un diamantaire, si à Anvers, c'est un commerçant, quelqu'un qui vend et achète des diamants. Dans les années 60 et 70, il y avait aussi d'autres personnes dans notre business. Ils étaient occupés dans la profession de manufacturing, c'est-à-dire le processus de couper, de tailler des diamants bruts pour arriver à un diamant taillé.
Tout d'abord, je suis né dans une famille de diamantaires, c'est-à-dire mon papa, il a appris de son père, qui a appris de son père, qui a appris de son père, etc. Et mon papa, il a demandé à son fils qui voulait étudier, je dois dire la vérité, tu dois me rejoindre parce qu'il faut travailler ensemble. Et je l'ai fait avec plaisir. Pourquoi ? Parce que j'ai connu les diamants depuis l'âge tendre. C'est-à-dire que mon père, il avait un atelier, il avait des gens qui travaillaient avec lui. Il taillait des pierres plus grandes, plus petites, il rendait les pierres belles. Et moi, étant gosse, j'ai tourné autour. Je me suis habitué au bruit, à l'odeur, à la chanson du diamant qui taille, et j'ai vu les diamants qui se transforment. Je m'asseyais en face de lui. Il y avait une très grosse courroie qui tournait et qui faisait tourner les disques à 2800, 3000 tours par minute, et c'est là-dessus, quand on l'imbibe et on frotte dessus de la poudre des diamants, qu'on arrive à tailler les diamants. Et lui était là en face de moi, comme vous, là. Et il m'a donné un outil. Il m'a monté une pierre dedans, une pierre brute. Il m'a dit, pose-la tout doucement sur le moulin. Sois prudent, doucement, parce que si ça ne marche pas, ça va rayer les disques. Et je pose, et ça ne taille pas. Il me dit, regarde maintenant avec la loupe, et je l'ai prise près de moi, et j'ai regardé avec la loupe, et je n'ai rien vu d'autre que la surface de ce diamant brut. Il dit, et pourquoi ça ne taille pas ? Il me dit, je n'oublierai pas. Je ne sais pas. Il dit, parce que tu dois apprendre que chaque surface d'un diamant brut peut te donner les indications comment il va tailler. Par son dessin naturel qui te montre la cristallisation. Alors, il m'a dessiné pour cette pierre la première facette. Et j'ai suivi. Elle a commencé à tailler. Je me rappelle quand j'ai regardé, j'ai vu soudainement une surface qui brillait. C'est limpide comme l'eau. On peut voir vers la profondeur sans fin. Hein? Ça y est, on attrape les virus.
Yanko kvet de Vesai Daisy, eh? Ben cross town and join YMCA. Soon bacon and pork, he began to enjoy. Took off his yarmulke, it was a guy. I said, hey, Yanko.
Primo, la taille, tout ça, n'est pas seulement le fait de juifs.
Bob Coles, maire d'Anvers, France Culture, 1988.
Depuis toujours, les non-juifs opèrent la taille du diamant, et pas seulement dans le centre de la ville. Il y a en Campine une région où la taille du diamant est également faite. Deuxièmement, il y a depuis quelques années de plus en plus d'hindous qui sont venus s'insérer, non seulement pour la taille, mais surtout pour le commerce du diamant. Donc, c'est de moins en moins, si vous voulez, un phénomène juif.
Au départ, nous avons démarré nos affaires à Anvers pour soutenir notre activité en Inde, en achetant du diamant brut et en vendant du diamant taillé. Mais après avoir vécu 2 ou 3 ans ici, j'ai senti que cette ville offrait une véritable opportunité. Anvers pouvait devenir un tremplin pour notre développement international. Parce qu'une des choses que cette ville offrait à l'époque, contrairement à l'Inde, c'était les ressources financières, l'accès aux liquidités. Et il y avait un très bon système bancaire et un esprit de libre entreprise. Il était possible de faire des affaires ici presque sans aucune restriction. Dans les années qui ont suivi, Rosie Blue s'est développée et nous avons ouvert des filiales aux États-Unis, à Hong Kong, au Japon, en Israël. Puis un peu plus tard, à Dubaï et dans d'autres pays, par exemple en Afrique du Sud et en Russie. Nous sommes aujourd'hui présents dans 14 pays. En 2007, notre chiffre d'affaires s'est élevé à environ 2 milliards de dollars. Mais il a dû baisser de 8 à 10% en 2008, à cause de la crise financière et de la baisse des ventes de détail qui affectent le monde entier.
Eddie Vliesdrager, vous nous recevez ici dans un immeuble particulier qui est l'immeuble du Club du diamant. Comment est structuré le marché à Anvers?
Disons que nous avons 4 bourses à Anvers. Il y en a 26 à travers le monde entier, en Afrique du Sud, il y en a à Dubaï, il y en a en Israël, il y en a à Miami, Singapour, New York, Los Angeles, enfin, il y en a 4 à Anvers. Le cœur du négoce est vraiment encore toujours à Anvers. La plus ancienne est le Diamond Club, qui s'est créé dans la fin du 19e siècle, rien que pour l'élite. Mon grand-père, quand il venait ici à la bourse, il devait venir en jaquet, avec la queue de pie, le chapeau haute forme, c'était obligé, on ne pouvait pas rentrer autrement, tandis que dans les autres bourses, c'était déjà un peu plus relax. Alors, comme vous voyez, nous avons la lumière du Nord. Il n'y a jamais un rayon de soleil qui tombe ici. Et alors ici, les gens s'assient avec leurs clients, discutent des lots, ils regardent des marchandises. Et ici, des transactions sont faites. Alors ici, vous avez un tableau avec toutes les demandes. Donc, ce qui veut dire que tous ces bureaux cherchent des marchandises. Par exemple, vous avez un client qui vient dans votre bureau, il vient chercher des marchandises, vous lui vendez une bonne partie, mais il y a des marchandises que vous n'avez pas. À ce moment-là, la bourse s'ouvre à 8 heures. Alors tous les courtiers viennent ici directement au tableau et ils vont voir toutes les demandes. Alors qu'est-ce que le courtier y fait? Il a un carnet dans lequel il marque tout ce qui est disponible. Il dit, tiens, telle marchandise, je sais que je peux le trouver chez un tel. Alors il va chercher la marchandise et il va le présenter au bureau.
Parce qu'ici, Eddie Vliesdrager, donc, se négocie sur les tables qu'on aperçoit derrière, à la fois des bruts et des taillés.
Oui, disons ici, en général, du taillé. Le brut, c'est plutôt dans le diamant cream. Ouais.
Donc ce sont des diamants qui peuvent venir, par exemple, d'Inde.
Ah oui, ça vient du monde entier, de partout ça vient. D'un côté, nous avons le restaurant, qui est réservé rien qu'aux membres du club et leurs invités. Ils ont action sur Internet. Ils peuvent regarder la télévision, les nouvelles sur CNN. Les derniers temps, c'est quand même assez important qu'on voit tout ce qui se passe dans le secteur financier, dans lequel nous autres, on est quand même plus ou moins entraînés
Donc d'un côté, il y a les membres admis. Et qui sont ces gens qu'on voit sur les photos?
Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quand vous êtes membre d'une des 26 bourses à travers le monde entier et que vous avez fait une incorrection et que vous êtes expulsé d'une de ces 26 bourses, toutes les bourses dans le monde entier reçoivent votre photo, soit qu'il n'a pas payé sa cotisation, soit qu'il a laissé une dette sur le marché ou des trucs dans ce genre-là.
Avant le processus Kimberley, il n'y avait aucun problème, même pas un problème moral, ressenti par le secteur diamant pour acheter des diamants de l'Angola en plein conflit. Tout le monde savait que ça finançait l'UNITA et qu'il pouvait se vendre des armes. Tout le monde s'en foutait, quoi.
Les petits patrons.
Tandis que maintenant, si tu veux le faire, c'est dans une atmosphère louche, c'est plus difficile de les vendre, ils sont plus bon marché.
Didier Verbruggen, nous sommes ici dans le jardin qui se trouve devant l'IPIS, l'International...
Peace Information Service. C'est une ONG. On a commencé à focaliser sur le diamant quand la problématique des diamants de conflit, des diamants de sang, ont surgi pendant la guerre civile en Angola et puis à Sierra Leone, Liberia. En Angola, la rébellion UNITA qui se battait contre la MPLA depuis les années 70, se finançait avec la vente de diamants qui parvenaient de l'exploitation artisanale. Et l'UNITA a gagné à peu près 2 milliards de dollars par la vente des diamants. Pendant la même période, un conflit a commencé en décembre 89, instigé par Charles Taylor, qui voulait devenir président du Liberia. Et puis, il a essayé de déstabiliser toute la région. Et ce qu'il visait, c'était les diamants alluvionnaires qui se trouvent au Sierra Leone. Je pense qu'il a gagné à peu près 800 millions de dollars pour ses comptes privés. Ils ont su se financer dans leur rébellion, aussi par la vente des diamants.
Là, quand on se promène dans ces couloirs, on voit différentes affiches qui en réfèrent au diamant. The light, integrity, la lumière, intégrité. On aura peut-être l'occasion de parler de ceci avec les officiers de police, donc chargés de cette question à Anvers.
Comme vous savez, il y a des choses qui sont un peu techniques peut-être, ou je ne sais pas.
Nous sommes tous les deux inspecteurs principaux. Voilà.
Vous travaillez donc tous les deux dans cette section diamant de la police fédérale d'Anvers.
Je pense que c'est ça. Hein.
C'est commencé un peu avec les diamants de sang, par exemple. Donc, en 1998, beaucoup de diamants de sang sont arrivés ici à la marché d'Anvers.
On sait qu'il y a eu plus d'un million de morts, je crois, en Angola, sur les années 80-90. Il y a eu 150 000 morts en Sierra Leone, sur une population d'environ 5 millions d'habitants, qui a documenté cette utilisation criminelle du commerce de diamants.
Pour l'Angola, c'était l'ONG anglaise Global Witness qui, dans un rapport de 98, a même inventé le terme « diamant de conflit ». Alors une autre ONG qui s'appelle Partnership Africa Canada, en 2000, si je me rappelle bien, a sorti une publication qui a montré que le motif central de la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest par Charles Taylor, c'était le commerce de diamants. Et d'ailleurs, ces deux ONG étaient les deux premiers observateurs du processus Kimberley.
Donc le processus de Kimberley a été créé en 2002. C'est un processus qui est très important pour nous pour défendre la réputation, l'image de notre produit. Pour pouvoir être importé ici à Anvers, tous les diamants bruts, doivent être contrôlés, expertisés ici au Diamond Office. Le Diamond Office est une coopération entre le secteur privé, donc le secteur diamantaire, et les ministères de l'autre côté, c'est-à-dire le ministère d'affaires économiques et le ministère de finances, c'est-à-dire les douanes. Ces experts doivent inspecter physiquement chaque importation, contrôler le poids, la valeur. Ce qui est très important aussi, évidemment, c'est qu'ils doivent contrôler de quelle sorte de diamant il s'agit. Quatrième chose que les experts contrôlent, c'est la présence d'un certificat de Kimberley.
Ils ne contrôlent pas l'origine du diamant ?
C'est-à-dire le lieu d'origine ou le lieu de provenance est aussi indiqué au certificat de Kimberley. C'est pas toujours possible de vérifier l'origine ou la provenance, où il n'y a pas toujours des caractéristiques qui peuvent permettre aux experts de dire « bon, un diamant vient de tel ou de tel pays ».
Bon, j'ai observé ce processus depuis quelques années. Problème, le processus Kimberley envisage seulement les diamants de conflit et la définition d'un diamant de conflit est un diamant qui finance une rébellion contre un gouvernement. Si, par exemple, comme en Angola, quand c'est le gouvernement même qui organise des violations des droits de l'homme, ce n'est pas un diamant de conflit d'après la définition du processus Kimberley. C'est une définition partielle qui est construite par la diplomatie de tous les pays qui sont engagés dans le secteur diamant, des pays comme la Russie, la Chine, l'Israël, des pays en Amérique latine, etc., etc., qui n'ont pas tous les mêmes normes ou la même approche vis-à-vis les droits de l'homme.
Par exemple, des diamants qui seraient produits dans des régions où l'extraction du diamant est très difficile, où les conditions de travail sont extrêmement dangereuses et dures pour les travailleurs, où il y a parfois des dizaines ou des centaines de morts sur un chantier en une année. Ces diamants peuvent arriver tout à fait légalement ici jusqu'à Anvers ou dans d'autres places diamantaires, et ça, ce ne sont pas des diamants du sang, nous sommes d'accord.
Oui, oui, nous sommes d'accord de ça, oui.
Et ce sont donc des diamants qui peuvent rentrer sur le marché à Anvers de manière complètement normale, sans problème.
C'est ça, hein ? Oui. Si les diamants sont trouvés à une manière légal, sans dire, sous le contrôle des gouvernements, on peut commercer ces diamants et vendre les diamants, et ils sont vendus aux diamantaires.
On peut donner l'exemple de Mbujimayi, qui est la capitale des diamants au Congo, où il y a une très grande activité artisanale. Les mines, là-bas, la nuit, ce sont des champs de bataille, où des gens essayent d'obtenir les places les plus diamantifères. Ils sont armés, ils se tuent. Mais, comme j'ai dit, selon la définition du processus Kimberley, ce ne sont pas des diamants de conflit. On fait la contrebande pour des raisons parfois fiscales. Si on prend un diamant en Angola où on donne un certain prix qui ne satisfait pas aux vendeurs, il peut le prendre au Congo et essayer d'avoir un prix plus haut. Mais sans certification, on estime que 15 à 20% des diamants en Afrique sont sortis par contrebande. Et donc ça, c'est une violation très claire du processus Kimberley. Selon la définition du processus Kimberley, d'un diamant de sang, il n'y en a pas en ce moment.
Est-ce que votre travail, combiné à celui du processus de Kimberley de certification, a permis justement que le commerce du diamant sur la place anversoise soit un peu plus propre ?
Oui, c'est une des raisons, je pense, de notre travail.
Mais l'origine est contrôlée dans le pays producteur. Donc c'est là que le pays a la responsabilité de créer un certain mécanisme pour être sûr que les diamants sont vraiment de leur pays et pas d'un pays voisin, par exemple.
Alors ces couloirs sont assez caractéristiques des bâtiments qu'on peut trouver dans le quadrilatère du diamant à Anvers. C'est-à-dire que ce sont des portes opaque, voilà. Et ce sont derrière ces portes que se déroulent les transactions ou les activités de taille.
Bonjour. Moi j'adore parler. Il y a tant à raconter et tant à entendre. Vous venez d'arriver à Anvers ou vous étiez déjà chez quelqu'un ?
Oui, nous étions en fait à la police fédérale ce matin.
Quoi, la police fédérale belge ?
Oui.
C'est parce quoi ?
Une enquête ?
Sans doute, c'est un peu leur métier, mais en tout cas, ils ne nous en ont rien dit. Mais...
D'accord.
Mais effectivement, à la fin, ils nous ont averti qu'ils comptaient faire une petite descente dans le quartier du Diamant, aujourd'hui.
C'est triste, parce que cela fait plusieurs fois déjà. Nous, on ne sait pas ce qui se passe, parce que c'est eux qui savent. Et heureusement qu'ils sont assez discrets dernièrement. Il y avait des cas où c'était un peu moins discret, et ça a vraiment donné une panique, parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Je vais vous dire, ce qui se passe, c'est que depuis la question de Kimberly, ça donne une impression comme si notre métier est un métier des voyous, des gens qui roulent tout le monde. Et c'est possible qu'il y a des gens qui trichent. Possible, mais c'est un pourcentage tellement minime parce qu'on ne sait pas travailler sans pouvoir avoir confiance l'un à l'autre. C'est pas possible. C'est une chose mondiale. Vous savez, par exemple, si moi j'envoie des marchandises chez un client, il y a une procédure d'envoyer des marchandises chez un client, à l'étranger. Une procédure qui est fixée d'une façon tellement extraordinaire que moi je ramasse que des papiers. Tous les papiers officiels qu'il faut remplir, qu'il faut maintenir pendant au moins 10 ans, n'est-ce pas? Et quand je parle avec mon client, il ne m'envoie pas un papier, je ne lui envoie pas un papier. Et il me dit, je voudrais acheter cette pierre. Et je lui dis, à quel prix? Il dit, à ton prix. L'accord est fait par téléphone. Il n'y a rien comme preuve. Les diamants, c'est quelque chose de spécial. C'est une petite chose. Il faut considérer un métier comme notre métier, comme quelque chose effectivement d'exceptionnel, parce que c'est légendaire, parce que ça brille. Parce que ça donne le creux de la main, un trésor. Mais de l'autre côté, il faut aussi considérer que c'est un défi. Le défi, c'est cette pierre brute qui arrive chez les personnes qui vont créer la métamorphose du caillou, hein, que beaucoup de gens, s'ils les voient dans la rue, ils vont taper avec les pieds sans savoir que ça vaut de l'argent, jusqu'à soudainement une fabuleuse beauté. Parce que comment est-ce qu'on adapte l'art de la création d'une beauté à un système industriel et commercial sous une législation?
Alors, très bien, donc les diamants arrivent ici en Belgique. Souvent par l'aéroport de Zaventem à Bruxelles, ils sont convoyés ensuite à Anvers, souvent par des convoyeurs de fonds ou de diamants sécurisés, la Brinks par exemple. Ils arrivent au sein du Diamond Office, qui est, je crois, situé au sein du bâtiment du Antwerp World Diamond Center. Les marchandises sont triées par des experts qui dépendent conjointement du Antwerp World Diamond Center et du ministère de l'économie et des finances. Et ensuite, une fois que la marchandise est triée, que se passe-t-il?
C'est le diamantaire anversois qui va décider que faire avec les diamants. Il va contrôler les diamants, il va expertiser les diamants, il va les trier et il va voir quel diamant peut être intéressant pour tel ou tel client. Et c'est comme ça qu'il va essayer de faire un nouvel ensemble de diamants pour les offrir à un autre diamantaire qui peut se trouver ici à Anvers, mais bien évidemment, il est aussi possible que ce diamantaire se trouve à l'étranger, en Amérique ou en Israël par exemple. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que l'acheteur ici à Anvers va examiner les diamants et ensuite va les envoyer à un centre de production. Et ce centre, cette usine, probablement va se trouver en Inde ou en Chine parce que c'est moins cher d'avoir le manufacturing là-bas.
Alors, je pense qu'il faut dire à ce moment-là que le diamant brut se présente sous plusieurs qualités. Vous avez près de 50% de la production qui est ce que nous appelons, nous, le bore, c'est-à-dire des diamants très mal cristallisés qui ne sont utilisés que broyés en poudre pour l'industrie. Et puis vous avez à peu près 30 à 35% de diamants qui sont utilisés dans la forme même du cristal dans l'industrie de très grande précision pour les surfaçages, les sciages. Et puis il reste moins de 20% de diamants qui sont propres pour la joaillerie. C'est ce qu'on appelle la qualité de gemme. Leur couleur, la perfection même du cristal, leur pureté fait qu'on peut les utiliser en joaillerie. Il faut noter que ces 18% représentent à eux seuls plus de 60% de la valeur réelle de la production.
Et les gens qui achetaient des bijoux et commandaient les designs et tout ça, c'était des gens aisés. Après la Deuxième Guerre mondiale, soudainement, la porte s'est ouverte. Peut-être à cause de la publicité. A diamond is forever, le diamant est pour l'éternité. A diamond is the girl's best friend. Hein? Et la best friend, c'est devenu le diamant parce que la petite secrétaire, elle mettait de côté un dollar après l'autre, et puis elle allait acheter une toute petite, un petit brillant dans une bague, elle rentrait dans le bureau les matins, marchant sur le haut talon et allant et montrant à tout le monde qu'elle a un petit diamant. Elle était déjà entrée dans un autre domaine, dans la société. Elle avait un diamant. Et le diamant agit comme un miroir transparent. Et la masse est venue pour acheter des diamants. Et par ce fait, soudainement, le métier a été secoué. Il était obligé de devenir une industrie.
Dans les années 70, en Inde, ils ont racheté toutes les petites pierres que les tailleurs anversois ne voulaient plus tailler. Donc c'était des pierres petites et difficiles, de mauvaise qualité, bon, ça les intéressait plus. Et ils ont acheté ça très très bon marché, ils ont fait travailler ça en Inde à des salaires dérisoires. Bon, ils ont comme ça créé, se sont construit une fortune. Ce qui ne veut pas dire que maintenant, en Inde, sur les 800 000 tailleurs, ils taillent tout des vilaines marchandises ou des petites marchandises. Il y a des tailleries qui taillent maintenant aussi des pierres plus importantes.
Ils ont commencé à quelle taille de diamant environ ?
Ben, on taille le diamant en 8-8 à partir de 500 pierres par carat. Hein. Par exemple, les montres de Rolex, Piaget, tout ça, qui font des pavés de diamants. Mais là, ils doivent être taillés naturellement d'une manière parfaite, mais ce sont des pierres de 500, 400, 300 pierres par carat. C'est pas une tête d'épingle, c'est la pointe d'une épingle.
Le carat, c'est très très vieux le carat. Vous savez que le mot carat vient du mot quara. Et le quara, c'était la graine du caroubier en sanskrit. Les négociants en perles du golfe Persique utilisaient la graine du caroubier, car dans des pays secs et des pays de mousson, la graine du caroubier a cette particularité de ne jamais s'humidifier. Donc chaque négociant ou chaque vendeur de perles à l'époque avait son propre système de poids. Alors on a donné le mot cara, il y a eu une transformation, c'est devenu le cara, à un système de poids qui se trouvait être des systèmes différents. Il y avait le cara de Paris, il y avait le cara de Bombay, il y avait le cara de New York, il y avait le cara de Londres, et il y avait comme ça des quantités de cara qui étaient très très proches les uns des autres. Et puis en début du siècle, il a été décidé qu'on rattachait le cara au système métrique, la cinquième partie du gramme. Un carat, c'est 0 gramme 20.
Et maintenant, ils taillent aussi les belles petites marchandises qui, dans le temps, étaient taillées dans la campine anversoise. Dans les années 70, les Golden 60s, quand on traversait cette région, on pouvait dire que chaque maison avait un moulin ou une machine à débruter ou quelques machines de sillage. Tout le monde était dans le diamant, c'était familial. Ils travaillaient avec le père, la mère, le fils, la fille, tout le monde travaillait chez lui, à la maison. Tout ça a disparu.
Monsieur Mehta, est-ce que vous pourriez nous préciser à quoi ressemble la communauté indienne ici, à Anvers ?
La majorité des Indiens présents ici à Anvers viennent de l'État du Gujarat, sur la côte ouest de l'Inde, à quelques centaines de kilomètres au nord de Bombay. Au début, le business du diamant était entre les mains d'une petite communauté issue du district de Banaskantha, au nord du Gujarat, et plus précisément de la ville de Palampur. Plus tard, des gens de Kathiawar, à l'ouest du Gujarat, nous ont rejoints. Ce sont de gros travailleurs. Ils étaient historiquement dans l'industrie de la taille, mais ils se sont ensuite lancés dans l'entrepreneuriat et en investissant dans la technologie, ils ont bien réussi. Tous les Indiens travaillent ensemble. Les gens de Palampur sont surtout Jains, adeptes d'une religion non violente issue du bouddhisme, tandis que les gens de Kathiawar sont plutôt hindous.
Mais cela n'a pas d'importance. On ne voit pas ces différences dans la vie de tous les jours et il y a une bonne entente au sein de la communauté indienne.
Abadiam, Eretz Diamond, Aber International, Eric Chang Trading, Adu Diamond, Euro Distributors Diamond, Afroleon, Jam, Alidia, Ajar, George, Alon, E. Henning, Ambel Company, Spadiam BVB, Context International, Jewel Star BVB, Antwerp Diamond, Cathy, Mac Precious Stones, Apfelbaum, Mason Bechel Diamond, Diamond
Company. Ici à Anvers, c'est un environnement multiculturel. Chaque nationalité qu'il y a au monde se trouve à Anvers dans notre secteur et nous considérons ça comme un atout. Les communautés les plus importantes sont, pour commencer, la communauté juive. La communauté qui, en effet, plus ou moins a construit notre secteur. Autre communauté très importante aujourd'hui avec des sociétés très fortes, c'est la communauté indienne. Tout le monde, naturellement, connaît Rosy Blue, qui est le plus grand au monde. Mais il y a aussi des sociétés comme Eurostar et DRF aussi qui se trouvent parmi le top 5 et qui sont établies ici à Anvers. Ils représentent à peu près 70% du chiffre d'affaires ici à Anvers. Mais quand on voit le nombre d'entreprises, c'est sans doute la communauté juive qui est la plus importante.
Il y a un mot en hébreu qui s'appelle Mazal. Mazal, c'est les vœux d'une bonne chance, une bonne réussite. Donc du moment qu'on conclut une affaire, il y a le vendeur qui souhaite à l'acheteur de réussir. Mazal ou vracha, c'est encore une bénédiction. C'est comme si on allait faire une prière et souhaiter que cette personne soit bénie. Et étonnamment, le mazal, il est dit par toutes les religions. C'est-à-dire toutes les personnes qui participent dans les diamants disent mazal. Qu'il soit japonais, mongol, russe, qu'il soit français, qu'il soit libanais, qu'il soit syrien, qu'il soit égyptien, qu'il soit israélien. Vous avez les anglais, vous avez les américains, et vous avez les canadiens, et vous avez les australiens, et vous avez les tasmaniens, et vous avez les néo-zélandais, les chinois, et puis vous pouvez en continuer les espagnols et les portugais. Et puis vous voulez les tunisiens, et les marocains, et les algériens, et les sénégalais, et les congolais, et les sud-africains, etc. Je peux vous ajouter encore si vous voulez. Hein? N'est-ce pas? Les tchèques, et les roumains, et les hongrois, et les turcs, et les grecs, et les iraniens. Les pakistanais.
Un petit peu plus au sud.
Et les afghans. Et les indiens.
Ah,
vous voyez, bon, les indiens, ça arrive presque à la fin parce que c'est eux les premiers qui étaient dans le diamant. Okay. Tous disent mazal.
La raison que les entreprises indiennes sont plus fortes, c'est que ils sont plus modernes. Ce sont des entreprises relativement jeunes, tandis que les entreprises juives sont plutôt traditionnelles. Un atout pour les entreprises indiennes aussi, et que eux, ils ont leur production en Inde. Donc, ils ont des firmes liées en Inde qui taillent pour eux. En effet, c'est comme ça que l'histoire commence. Les autres commerçants ici à Anvers ont eu des problèmes parce que leur production était ici à Anvers et il n'y avait plus moyen pour faire la compétition avec les autres. Un autre avantage pour la communauté indienne, c'est que tout le monde, c'est dans leur culture, dans leur religion même, tout le monde qui appartient à la famille est occupé dans l'entreprise, dans la société. Ces sociétés sont organisées internationalement. Pour avoir du succès, on ne doit pas rester seulement à Anvers, mais on doit avoir aussi la production en Inde, en Chine, en Thaïlande. On doit avoir des succursales à Tel Aviv, à New York, à Mumbai. Et c'est comme ça qu'on peut obtenir le succès.
Question about, you know, why Antwerp?
Pourquoi rester à Anvers aujourd'hui? D'abord, parce qu'ici, nous sommes proches de l'Europe et du marché européen, mais aussi des États-Unis et d'autres parties du monde. C'est très pratique. Anvers se trouve sur un fuseau horaire qui vous permet de parler avec le Japon le matin et de négocier avec l'Amérique du Nord le soir, tout ça dans la même journée. Par sa situation géographique, Anvers reste pour nous un centre opérationnel majeur. Mais nous avons d'autres positions importantes dans le monde, dont certaines se développent rapidement. L'Amérique reste un centre privilégié de distribution des diamants taillés, tout près des plus grands bijoutiers. L'Inde est notre principal centre de taille et sert aussi pour la distribution. Dubaï, enfin, est devenu ces dernières années un centre important pour la commercialisation des pierres taillées sur les marchés du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, qui sont en pleine croissance. Tout dépend donc de la localisation géographique de nos implantations. Il est important que nos clients puissent venir nous rendre visite facilement. Le commerce du diamant ne peut pas se faire devant un écran. Il faut être là, physiquement, pour voir la pierre et exercer sa propre capacité de jugement.
Nous sommes ici dans le laboratoire de certificats. Ici, on examine les diamants taillés. Un diamant taillé a quatre caractéristiques, ce qu'on appelle les 4 C, the 4 C's of diamonds, les 4 C de diamants. D'abord, le caratage, donc le poids d'un diamant taillé. La deuxième C, c'est la couleur. Donc, la couleur d'un diamant taillé peut être plutôt blanc ou plutôt jaune. La troisième C, c'est la clarité d'un diamant. Est-ce qu'un diamant est clair ou pas? Est-ce qu'il y a des incisions? La quatrième C, c'est le cut, la manière dont est taillé un diamant taillé. Le prix du diamant dépend de la combinaison, entre les 4 C. Les C les plus importants sont le carat, donc le poids, et la couleur. Ce sont surtout ces deux C qui déterminent le prix du diamant taillé.
Vous voyez aujourd'hui chez les plus grands bijoutiers des bijoux magnifiques qui sont autant symétriques, faites à la main, parce que mon grand-oncle un jour a écrit pour la forme ronde brillant, une thèse, il avait 19 ans, et il a établi des paramètres pour créer la réfraction et la dispersion de la lumière qui soit maximale. C'est resté la seule et unique étude mathématique qui a été établie pour tout le métier diamantaire.
57 ?
Oui, 57 facettes. Oui, 57 si vous voulez, mais j'ai beaucoup plus de facettes sur mes pierres.
Alors, qu'est-ce qu'on écoute là, au juste,
c'est
Gabriel?
C'est la lumière. C'est les empreintes digitales de la pierre, les retours de la lumière, de l'intérieur de la pierre, qui est en train de créer des sons de lumière. C'est une façon mathématique de retourner vers un impact qui crée un jeu sur un instrument électronique. Excusez-moi.
Alors, justement, Micheline van Branden, vous êtes chargée de communication au musée du diamant d'Anvers. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu pièce à l'appui de la structure du diamant?
Donc les questions qu'on peut se poser ici, c'est donc pourquoi le diamant est-il donc aussi dur? C'est-à-dire, il est composé de carbone pur. Dans le diamant, chaque atome de carbone est relié à 4 atomes de carbone voisins. Et ces liaisons sont courtes, solides, symétriques et d'une force égale. C'est pourquoi donc le diamant est si dur.
Alors Micheline van Branden, on voit apparaître dans la coupe, la taille, le débruitage, le polissage du diamant, tout un tas d'appareils, de machines électroniques souvent, des écrans qui facilitent le travail du tailleur. Le tailleur qu'on a vu tout à l'heure était en fait tout simplement assis derrière une machine automatique et un écran. On voit apparaître des scanners sur des écrans informatiques qui vont nous permettre de lire à l'intérieur de la matière sans même que l'homme ait besoin d'y mettre son œil nu. Avec tout ça, toute cette machinerie, est-ce qu'il n'y a pas un tas de métiers, de compétences, d'intelligence humaine de la matière diamant qui se perd ?
Oui, malheureusement, ces gens, ils étaient déjà actifs pour la plupart dès l'âge de 14 ou 15 ans, mais ils n'ont pas pu donner tout ce qu'ils ont appris pendant 40 ans d'expérience à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Donc, de temps en temps, quand même, il y en a qui sont demandés par des sociétés internationales pour venir en Chine, par exemple, et d'expliquer donc leur métier. Hein. C'est un peu la dernière chose qu'ils peuvent faire pour transporter leur savoir-faire, oui. Mais après, ça sera fini. Hein.
Avant d'entrer au musée, comme cette personne que nous avons vue tout à l'heure.
Oui, il a eu de la chance, oui. Il a travaillé dans pas mal de sociétés, avant donc des petites sociétés de famille, souvent juives, qui... Il y en a encore qui existent, mais il a aussi travaillé, par exemple, à Berlard ici, dans la région de Campine, anversoise. Il avait une grande société, c'était la plus grande qu'on a connue dans ces environs. Et c'était une compagnie de De Beers, donc ils avaient toujours assez du diamant brut, hein, pour scier ou pour tailler, mais donc... dans la fin des années 80, donc, c'est De Beers qui a... pris la décision de fermer cette société-là. Donc, la plupart des gens qui travaillaient là, et c'était des centaines de gens, donc ils étaient presque tous mis à la porte. Je ne saurais pas vous dire.
Dilip Mehta, nous sommes ici dans votre bureau à Rosy Blue, à Anvers. Je vois derrière vous deux images assez différentes. La première représente un fauve qui pourrait être un guépard, qui est assez agressif. Et juste derrière vous, il y a cette jeune femme drapée dans un sari orange qui s'apprête à prendre un bain dans le Gange, en Inde. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la signification qu'ont ces deux images pour vous ?
L'animal que vous voyez ici, un léopard, est le symbole du pouvoir. Non pas le pouvoir qui flatte votre ego, mais au contraire, celui qui renforce votre esprit et vous donne l'énergie de faire les choses. Le Gange est le fleuve ultime, celui où l'on réalise son dernier pèlerinage. Bien que je ne sois pas hindou, ce fleuve est sacré pour moi. Comme pour tous les Indiens. Il symbolise le cours de la vie. Et la philosophie hindoue envisage la vie en quatre étapes. Avant la vieillesse et la retraite, il y a d'abord l'enfance, ensuite l'éducation, puis la période de maturité, celle pendant laquelle vous prenez vos responsabilités vis-à-vis de vos enfants, de votre entreprise et de la société dans laquelle vous vivez, et enfin de votre famille au sens large du terme. C'est à ce stade que je me trouve aujourd'hui.
Quand on parle de diamants, chez Dilip Mehta tout à l'heure, il y avait un guépard devant le zoo d'Anvers et en fait au musée du diamant qui est l'ancienne société de zoologie, je crois, d'Anvers, il y a un lion, puis un tigre. C'est important le bestiaire dans le milieu du diamant ?
Disons que en Flandre, le lion est quand même l'emblème de la Flandre, ça c'est déjà médiéval. Mais d'autre part, vous allez rencontrer pas mal de bestiaires suite à notre jardin zoologique qui est quand même aussi assez important à l'échelle mondiale.
Alors aujourd'hui, sur le marché du diamant, qui se taille la part du lion ?
Pour le moment, c'est quand même les sociétés hindoues. Oui, pour le moment.
La mondialisation en 57 facettes. Un grand voyage dans la petite famille du diamant.
Deuxième volet, Anvers, Belgique. La part du tigre. Remerciements chaleureux et tout particuliers à Francis Garçon.
Un grand merci à Eddie Wiesdrager. Merci également à Philippe Kless, Caroline Germain, Ingrid Ivers, Dilip Mehta,
Sandra Van Biers, Steve Van Biers, Mark Van Bokstel, Iris Van Der Wecken.
Prise de son, Didier Sudre. Avec la voix de Didier Doué. Archive, Cécile Rogue, de la Sonothèque de l'INA. Documentation musicale, Christian Charles. Mixage, Mathieu Leroy.
Avec le soutien de Radiophonie Europe. Sur les docks, Benjamin Bibas, Emmanuel Chicon, Jean-Philippe Navarre.
LSD, la série documentaire, c'est déjà presque une habitude, mais c'est fini pour aujourd'hui. C'est expertisé par Perrine Kervran, avec Marie Bonnabolivier. Et si vous voulez passer le tout à la grosse loupe, bibliographie, lien, nous podcaster pour les jours 100 ou nous réécouter dans le tramway d'Anvers, c'est sur la page de l'émission, sur le site de France Culture. Vous y trouverez aussi le 5e épisode parisien de la série, et vous pouvez nous trouver, nous aussi, sur Facebook et nous suivre sur Twitter. Demain, 3e étape du diamant, Bombay, en Inde, le grand jeu des chats et des métas.